Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Nous poursuivons cette nouvelle série PMA-GPA, les différences, avec ce soir les femmes à l'assaut de la PMA. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Rosane Le Carboulec de la revue Têtu et avec Martine Ségalen qui est ethnologue spécialiste de la famille. Bonsoir. Et merci d'être là toutes les deux pour aborder des questions qui sont passionnantes d'ailleurs, je dois dire. Et tout d'abord, Rosane Le Carboulec, parlez-nous un peu de Têtu, ce journal gay qui a été créé sur le papier, en tous les cas, il y a maintenant combien 30 ans presque.
Exactement, oui. Eh bien, du coup, pour vous dire deux mots sur Têtu, donc moi je suis rédactrice en chef du site internet qu'on a relancé fin juin avec une petite équipe de 5 personnes où on publie des sujets, donc comme vous l'avez dit, liés à l'actualité gay, puisque c'est l'historique du titre. Mais où on élargit aussi la ligne éditoriale à toutes les thématiques qu'on appelle LGBT, c'est-à-dire qui s'adressent aux personnes lesbiennes, gays, bi et transgenres. Le magazine a arrêté de paraître, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va le relancer là au mois de novembre. Donc on sortira une nouvelle revue, cette fois qui sera trimestrielle, le 21 novembre, qui sera plus dense, plus fournie, avec des sujets un peu plus long et approfondi.
Alors, vous étiez journaliste à l'Observateur auparavant,
ou vous êtes au Nouvel Obs,
oui. Au Nouvel Obs, oui. Et vous avez également votre dernier article, d'ailleurs, c'est 90 femmes lesbiennes et célibataires ayant eu du recours à la PMA interpellent les médias pour leur absence.
Exactement.
On ne demande pas d'être présent.
Exactement, c'était donc là je parlais d'une tribune qui a été publiée sur le site internet de France Info il y a quelques jours et dans laquelle 90 femmes lesbiennes ou célibataires interpellent les médias sur leur invisibilisation et par là même l'invisibilisation des principales concernées lorsqu'on aborde la PMA dans les médias. Puisqu'on a fait le constat tout de même que ces dernières semaines et ces derniers mois, lorsqu'on aborde la PMA, on invite beaucoup d'opposants, c'est-à-dire des évêques, des médecins, des militants de la Manif pour tous, qui donnent leur point de vue sur ce que les femmes devraient faire ou non de leur propre corps, mais qu'on donne finalement assez rarement la parole aux principales concernées. Or, ces prises de parole ne correspondent pas tout à fait à la réalité, puisque la plupart des sondages, et principalement les derniers sondages qui ont été publiés, démontrent que la grande majorité des Français aujourd'hui est favorable à l'extension et à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes lesbiennes et aux femmes célibataires.
Donc on va en parler, ça va être le sujet de notre émission. Je me tourne vers Martine Ségalen, qui a publié un nombre de livres, j'ai été surpris de voir toute la liste.
Je suis très vieille,
Non, vous avez beaucoup travaillé, et ça viendra encore, que ce soit sur l'autre, le semblable, sur les grands-parents, la famille à travers des générations, la parenté, le nouvel esprit de famille, l'éloge du mariage, et un des derniers, en tous les cas, à qui appartiennent les enfants, ce qui va être, bien sûr, un peu notre thème. Vous dites « l'enfant fait famille », mais la famille n'est plus la famille classique. Elle est une famille qui est souvent recomposée, qui est parfois adoptive, qui est parfois issue de PMA simple ou avec donneur, qui est parfois hétéro, qui est parfois homoparentale, qui est parfois monoparentale. Et donc, objectivement dans une phase de mouvance par rapport à l'idéal de « je te rencontre, tu me rencontres, on s'aime ». Et l'amour n'était pas toujours présent, hein. On l'a vu avec Serge Éphèse et puis Monsieur Boulogne. Mais quand le mariage d'amour s'est instauré il y a 200 ans, c'était pour la vie. Or, la réalité n'est pas tout à fait celle-là, puisque vous dites que le pour la vie, 50% des enfants naissent hors mariage aujourd'hui.
60%.
Eh bien, ça monte. Et alors fond de famille néanmoins. Donc c'est quoi la famille?
Vous faites référence à la famille classique. En fait, il n'y en a jamais eu. On a fait beaucoup de publication il y a des années et des années sur l'histoire de la famille pour montrer qu'à chaque période, à chaque société, à chaque culture correspond une forme de famille. Donc ce que vous évoquez à propos de la famille classique, c'est effectivement le modèle, disons, bourgeois du 19e siècle, dans lequel l'amour même n'était pas encore très présent. Je crois que l'amour, il est venu dans le mariage.
Il y avait les nounous aussi en plus. Il y avait les nounous pour élever les enfants.
Ah oui, oui, oui.
Alors, c'était
oui,
une famille...
Bien sûr. Mais l'amour est venu s'inscrire dans le mariage, et puis tout d'un coup, le fait qu'il soit devenu prédominant, c'est ça qui a bouleversé complètement le mariage, qui fait que la vie de couple a semblé relever de la vie privée. Et on se demandait pourquoi aller devant monsieur le maire pour étaler ses sentiments de vie privée, et ça n'a fait que croître et embellir. En même temps, il y a eu tant de transformations qui font que la famille change, l'augmentation du niveau d'éducation des femmes, tout ce que les progrès de la médecine ont permis pour leur corps, et c'est pas à vous que je raconterai ça, sur la grossesse et l'accouchement, puis la liberté du corps, ce qui fait que la famille n'a pas arrêté de changer, et depuis les années 80 spécialement, c'est vrai qu'il y a une accélération, on a l'impression, de ces transformations, notamment avec les transformations médicales. Mais quand on parle de femmes seules qui élevaient leurs enfants, c'est un modèle qu'on a eu dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Alors elles s'appelaient avant des filles mères, quand elles n'allaient pas abandonner leurs enfants quelque part, ou alors après on les a appelées mères célibataires, ce qui était en général stigmate. Il y a une sociologue il y a des années qui s'appelle Nadine Le Faucheur qui a inventé à ce moment-là la catégorie de la famille monoparentale, c'est-à-dire des femmes qui élevaient leurs enfants seules. Ce qui n'est pas la même chose, évidemment, que les questions de procréation qui sont maintenant devant nous et dont on débat, et qui ne sont pas simples, en tout cas, à mon avis.
Pas simples, pourquoi ?
Parce que c'est, s'agit pas de dire oui, non, on est pour ou on est contre. Quelles sont les modalités ? Rosen, vous permettez que je vous appelle par votre prénom ?
Bien sûr.
J'ai l'impression qu'on est entre bretonnes. En tout cas, moi, par la filiation, par le mariage. Rosen disait qu'il y a des sondages favorables. Je ne sais pas quels sont ces sondages, sur quoi est-ce qu'ils sont fondés, sur des données scientifiques, j'en suis pas sûre. Et ça n'est pas simple, l'idée que l'État français va, ce qui change complètement de la question de l'adoption, va autoriser des femmes à ne faire un enfant qu'avec un seul parent et une seule filiation. C'est ça qui serait déjà le saut, parce que des femmes aient enfreint la loi, enfin c'est pas interdit par la loi, sont allées en Belgique et de fait ça existe. Mais là, si la loi est votée accordant la PMA aux femmes seules ou les femmes lesbiennes en couple, c'est l'État qui va instaurer pour la première fois, une seule filiation, et ça c'est assez surprenant.
Mais si ça existe déjà, une femme peut concevoir seule à la rencontre d'un soir et elle sera, elle portera l'enfant qu'elle l'a souhaité, si elle l'a fait se coupant d'âme à cet homme de rencontre, ça c'est un autre problème. Mais...
Bon, c'est un autre problème, mais là c'est l'État qui, en accordant officiellement, légalement, va pour la première fois instaurer une filiation unique. Et ça, même si tous mes collègues anthropologues prétendent qu'il n'y a pas à se faire de soucis parce que ça existe partout, je crois que ça serait un saut. Donc, je veux pas dire que je suis pour, je suis contre, etc. Mais je veux dire qu'il faut vraiment mettre sur la table tous les paramètres que suppose cette loi, si elle vient.
Rosen Le Carbolec,
vous
voulez répondre ?
Oui, tout à fait. Pour répondre d'abord sur les sondages... Pour n'en citer que deux, il y en a eu un en janvier 2018 de l'IFOP qui montrait que 60% des Français étaient favorables à la PMA pour toutes, et un autre en juin 2018 qui montrait que 3/4 des Français, donc 75% de la population, étaient favorables à la PMA pour les couples de lesbiennes et les femmes seules. Et concernant cette espèce d'institutionnalisation de la famille monoparentales qu'on peut craindre. Bah, René Friedman l'a soulevé, les familles monoparentales existent déjà. Je crois que ça représente, je parle sous votre contrôle, un cinquième des familles en France aujourd'hui. Et sur ces familles, je crois que c'est 9 enfants sur 10 qui sont élevés uniquement par des femmes.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas une origine paternelle connue. Ouais,
elles ont ces familles-là, il y a eu un mari ou un conjoint ou un copain qui n'est pas inconnu. Et si elles s'appellent monoparentales, c'est aussi parce qu'elles ont recours à l'État, parce que le dit conjoint ou copain a disparu et ne paye pas la pension alimentaire, donc l'État est là pour compenser. La filiation, la double filiation existe, et avec tout ce que ça comporte sur l'identité des uns et des autres.
Et justement, dans le cas de ces familles monoparentales, il y a eu un père ou un géniteur, peu importe comment on l'appelle.
Non, mais pas peu importe. Tous les mots ont de l'importance. Il est géniteur et il est père à la fois. C'est-à-dire que c'est lui qui a donné son sperme, c'est l'aspect biologique, mais il est père social et la loi le reconnaît comme tel.
Mais si le père social a abandonné ses enfants, qu'est-ce qui est le pire entre ces familles monoparentales? Je pense qu'ils sont incomparables avec le désir d'enfant qu'il y a aujourd'hui et les revendications qu'il y a d'ouverture à la PMA pour toutes aujourd'hui, puisqu'on sait que les familles monoparentales sont nombreuses à vivre sous le seuil de pauvreté parce que ce sont des pères qui ont totalement abandonné leur famille. Mmh. Et donc là, on parle effectivement d'enfants qui souffrent de ces situations. Or, dans le cas de la revendication de la PMA pour toutes, ce sont des mères célibataires qui ont un profond désir d'enfant et des couples de lesbiennes qui, de même, ont un profond désir d'enfant. Et vous parliez tout à l'heure du fait que l'amour n'a pas toujours été la base de la famille et du désir d'enfant. Or là, c'est la condition, si vous voulez, vraiment.
Mais moi, je comprends tout à fait ce désir d'être mère, et ça me semble, si j'ose employer ce mot, naturel d'une certaine façon. Et c'est le plus bel accomplissement. Vous dites que les enfants des familles monoparentales vivent souvent difficilement cette situation. Qu'est-ce qui nous garantit que les mères qui ont un tel amour et un tel désir d'enfant seront aussi des bonnes mères? On est tous des mauvais parents, je pense, par définition, quel que soit notre sexe et la façon dont on fait les choses. Je maintiens tout de même, si on peut reprendre, moi je pense que c'est quand même une énorme différence entre le fait de savoir que bon, peut-être qu'on a un père qui est complètement absent, mais on sait quel est son nom, on sait quels sont ses parents. Peut-être qu'on peut s'entendre après tout avec les parents de son propre père, même si on ne le voit pas. Et donc ça, c'est quelque chose dont les enfants seront privés. Et une fois encore, je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien, et c'est pas à moi de porter des jugements, mais je veux dire que c'est ça qu'on peut mettre sur la table parmi les paramètres quand on en discute.
Voilà. Mais est-ce que ça ne pose pas de façon très aiguë le problème de l'anonymat du don? Parce que la levée de l'anonymat redonnerait un nom au géniteur.
Évidemment.
Tout en le considérant comme géniteur. Est-ce que donc c'est même envisageable d'ouvrir aux femmes seules ou aux femmes lesbiennes? Les femmes lesbiennes, c'est plus compliqué, parce qu'elles n'auront peut-être pas la volonté de l'introduction du troisième. Mais enfin bon, on en discutera. Je veux dire, moi, il me semble impossible de ne pas revenir sur l'anonymat du don. D'une part, parce que un certain nombre d'enfants revendiquent et que les progrès technologiques feront que ça va devenir beaucoup plus simple. On le voit bien, il y a déjà 3-4 enfants nés par don de sperme qui ont retrouvé par les voies informatiques les origines. Donc déjà, il y a cette notion, c'est que quand on veut, on a une chance de pouvoir. Mais est-ce que ça serait pas plus sain que d'instaurer donc cette levée d'anonymat avec précaution? Il y a plusieurs étapes à discuter. D'ailleurs, les points de vue sont pas tous identiques. Mais j'aimerais vous entendre, Martine Segalen.
Alors, il me semble qu'effectivement, ça serait un corollaire important. Et dans quelles conditions est-ce que ça serait fait? Est-ce que la loi, d'ailleurs, le projet de loi va prendre ça en compte? Je ne sais pas. Je voudrais, vous avez remarqué, vous avez souligné qu'il y a une différence entre le problème des femmes, la question des femmes seules et la question des femmes lesbiennes. Je fais référence à des très bons travaux de Martine Gross, qui a travaillé énormément sur ces questions, et qui montrait justement que les femmes lesbiennes, au début, si j'ose dire, de leur relation, il y a quelques années, elles avaient fait des enquêtes et montraient qu'elles avaient fait une espèce de coparentalité avec des couples d'homos, mais que finalement, petit à petit, elles s'apercevaient que la relation à quatre devenaient impossibles et que c'est pour ça qu'elles se rabattent, si j'ose dire, sur la demande d'insémination aux frais du gouvernement, j'en sais rien, en tout cas par le biais de la loi. Et c'est intéressant de voir que, me semble-t-il, les femmes en couple de lesbiennes, comme vous le dites, seraient peut-être, elles, plus réticentes à la levée de l'anonymat parce qu'elles voudraient rester entre couples de femmes, renforcer la position de la seconde mère en quelque sorte. Mais moi, je suis absolument de votre avis. Il faut que ces enfants qui naissent de cette façon-là et qui n'ont quand même rien à voir avec ce qu'étaient ce que j'appelais les filles mères ou les familles monoparentales aient la possibilité de le faire. Mais alors, vous êtes, professeur Friedman, mieux placé que moi pour savoir que déjà, il n'y a pas beaucoup de dons et que les sécos courent après les dons de sperme, si j'ai bien compris. Est-ce que s'il y a levée de l'anonymat, on va être en manque de donneurs? Ça, c'est le professeur Frédéric Cuten qui soulignait ça.
Oui, mais pas tous ne sont d'accord dans le milieu des sécos, d'une part. Et puis d'autre part, juste quand même un point. Enfin, ça, ce sont des modalités d'application qui peuvent poser problème, bien entendu. Oui. Là, on discute du principe.
Oui.
Ensuite, les modalités d'application. Très clairement, vous parliez de, ils font la course. Ben non, justement, ils font pas la course parce que s'il y avait une course dans Paris sur le don de gamètes, ça serait peut-être un peu plus perceptible. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a pas de campagne réaliste et correcte. Pour le don de gamètes, c'est ça que je voulais dire, si vous voulez. C'est qu'il faut une visibilité pour ça, qui a toujours été un peu tenue. Je ne sais pas si vous savez, Martine Segalen, mais par exemple, 50% des centres de fécondation in vitro privés n'ont pas le droit de faire la moindre campagne sur le don de gamètes. Nous ne pouvons pas, même en public, qui sont parcimonieusement autorisés à faire, alors qu'on en manque, on voudrait que tous les centres aient la possibilité, dans un cadre clair, bien entendu, de pratiquer le don de gamètes. En tous les cas, de faire des information. Si je ne peux pas aller dans une faculté, un lycée, un équipement sportif ou universitaire pour parler du don, hein, parce que c'est en France, c'est autorisé que sur le plan national et une fois par an, ça va venir d'ailleurs dans quelques temps et ça va pas apporter grand chose.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas assez de campagne publique pour ce.
Je pense que la première chose, c'est de dédramatiser et de déculpabiliser le don pour en faire véritablement, comme les Espagnols ont pu le faire, quelque chose qui intellectuellement avance, si vous voulez. Bon, après, je ne dis pas que tout est résolu, mais je dis simplement que d'abord le principe et ensuite les modalités. Alors, sur le principe de l'histoire de la levée de l'anonymat, qu'en pensez-vous
Tout d'abord, pour revenir sur ce que vous disiez, sur le fait que les couples de lesbiennes... sur le fait que les couples de lesbiennes seraient peut-être davantage réticentes à la levée de l'anonymat des donneurs, je ne suis pas sûre que ce soit tellement le cas. En tout cas, je ne sais pas sur quoi vous appuyez pour l'admettre.
Enfin,
je ne sais pas s'il y a des études très précises.
Enfin, c'est un peu... dans la continuité de ce que racontait Martine Gross, si vous voulez, disant que cette solution qui aurait pu en être une, effectivement, de s'entendre avec un couple d'homo, ne fonctionnait pas et que ces femmes préféraient rester dans leur entre-soi, si je puis dire.
Ouais, là, après, vous parlez de la coparentalité, pardon, je pense que c'est un modèle encore différent et effectivement très, très compliqué
à
mettre en place
aujourd'hui
et qui est d'ailleurs abandonné par pas mal de familles homoparentales.
Ce qu'elle racontait, Martine.
Après, sur ce débat sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires, je pense qu'il a justement le mérite de remettre la question de l'anonymat du don sur la table. C'est une question qui se posera pour tous et pour toutes. D'ailleurs, je crois que le Comité consultatif national d'éthique s'est prononcé pour cette levée de l'anonymat à certaines conditions qu'il faudra bien sûr établir. Il y a aussi la possibilité de la levée de l'anonymat partiel, c'est-à-dire qui permettent de communiquer à l'enfant des données qu'on appelle des données non identifiantes sur le donneur, et donc qui donnent des indications sur notamment pourquoi il a souhaité faire ce don, mais sans révéler son identité. Et donc je pense qu'effectivement il y a pas mal de questions à se poser là-dessus, et que, enfin, moi je suis plutôt favorable à la levée de l'anonymat du don, mais il y a certaines conditions à mettre en place pour ça.
Oui, le diable étant dans les détails, on va y revenir dans un instant sur justement les petits points qui me semblent importants. Juste avant, une réflexion. c'est que vous, vous évoquez cette crainte, en fin de compte, de l'introduction de la tierce personne dans la vraie vie. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans les soins de la GPA, qui vont faire à l'étranger, on va en discuter tout à l'heure, mais la mère qui a accouché de l'enfant, elle est, surtout si elle est thaïlandaise, indienne et même californienne, elle est bien loin. Elle n'est pas du tout présente, parce qu'à chaque fois, ça bouscule l'entre-soi du désir d'enfant à deux, parce qu'il s'est fait à deux le désir, pas à trois. Et donc, ça reste un point qui fait que on peut se protéger, on peut vouloir se protéger, enfin un couple peut vouloir se protéger de l'introduction dans la vie quotidienne de la tierce personne. Or, justement, dans l'histoire de la GPA, par exemple, il y a une revendication de la tierce personne d'être reconnue, aimée et de pénétrer un peu dans ce monde, ce qui n'arrive pas et sont même au contraire rejetés. Dans l'histoire du couple lesbien, c'est peut-être aussi la même chose, une des difficultés. Alors, la chance, c'est que ce problème de l'anonymat, s'il se pose tout de suite dans l'organisation, en fait, c'est 18 ans plus tard quand même. La levée de l'anonymat se fait par l'enfant, se ferait, point d'interrogation, par l'enfant. Donc c'est à l'âge de 16 ans ou 18 ans. Donc il y a, j'ai envie de dire, 18 ans tranquille, sûrement pas tranquille, parce que le problème du couple qui a voulu recourir, qu'il soit homo, qu'il soit hétéro, à un couple, à une demande de gamètes, va le dire ou pas le dire. Ça c'est leur liberté. Ils le disent ou ne le disent pas. On va pas imposer les conditions de la naissance par un petit PV qui arrive de la préfecture à 18 ans. La deuxième chose, c'est que l'enfant...
Attendez, dans les couples hétérosexuels, ils peuvent cacher, mais
c'est
dans
ce que je dis.
Oui, mais pas dans le cours.
Alors attendez, j'arrive. J'étais dans le couple.
D'accord.
Dans le couple là, enfin tout couple peut cacher, même dans le couple homo, on peut dire que ça a été une rencontre, ça a été, enfin il y a eu des histoires, des romans familiaux, il y en a même maintenant. Donc il y aura Flores, mais je veux dire, donc on peut pour toujours le cacher, on n'est pas obligé de dire qui que, bah oui, ça a été, j'étais pris par hasard ou je sais pas quoi, pas par hasard, mais il m'a plu, mais il est parti, c'était un prince russe, voilà, etc. Et donc les parents acceptent la levée de l'anonymat, mais ils peuvent évoluer au bout de 18 ans, ou dans les 18 ans, le dire ou pas le dire. L'enfant, il peut être au courant, et il peut faire des recherches ou pas faire des recherches, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de faire des recherches, qui sont très bien comme ça. Reste le problème délicat du donneur. Et là, il y a un peu des discordances entre ce que je pense et ce que je vois. Que le donneur ou la donneuse donne leur nom, en dehors des données non identifiantes, me semble une démarche claire et nette. Mais j'ajouterai un codicille, c'est que je pense que 18 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, je pense que le donneur et la donneuse doivent avoir la liberté de se rétracter. Parce qu'on ne peut pas imposer ce genre de choses à 20 ans d'intervalle. La vie peut changer dans les relations, dans le déséquilibre, et tout ça. Donc, c'est pas une garantie, mais c'est en tous les cas une marche en avant vers la majorité des demandes seront satisfaites. La majorité des demandes seront satisfaites. Un peu comme l'histoire de l'accouchement sous X, où les enfants peuvent demander à la CNAOP, au comité, de retrouver, alors c'est encore plus grave, hein, on retrouve la mère rétrospectivement, à qui on a promis, juré, vendu, que jamais on lèverait son anonymat, et on la retrouve et on lui demande, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour ne pas voir votre enfant, ou ne pas vous manifester, et elle a le choix de dire oui ou non. Donc vous voyez bien qu'on peut revenir dans certaines
circonstances. Et on rouvra, évidemment.
Alors, de toute façon, on les rouvre, parce que là, c'est rétrospectif, c'est très mauvais. Mais là, on serait dans du prospectif, donc les gens sauraient qu'il y a cette éventualité. Mmh. Mais par contre, ils auraient la liberté de... Ça, je personnellement, mais j'ai du mal à me faire entendre.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie te tend. Je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. Mais sur mes dessous, le sang revient comme toujours. Je me sens bien seule et je ferme ma gueule quand autour de moi. À ton cou, qu'est-ce qu'ils font les autres, qu'est-ce qu'ils ont. sont les autres plus seuls que nous. Je me fous des discours, des mots qui rassurent, des professionnels. Connaissez-vous la peine d'une femme qui rêve d'être mère? La belle, je sais faire. La conne, je sais faire. La cuisinière aussi. La fille, je sais faire. La pute, je sais faire. Mais pas donner la vie.
Matière à penser, René Friedman.
Nous sommes avec Rosane Caroulet, qui est rédactrice en chef de la revue Têtu, et de Martine Segalen, qui est anthropologue et qui est chercheur du Centre d'ethnologie française. Dites-moi, Martine Segalen, on va parler un peu de la GPA, car je sais que vous êtes une militante, on va qualifier d'anti-GPA. Il y a d'autres ethnologues qui disent, mais enfin, ça a toujours existé, dans telle société du fin fond d'eux, il y a un certain nombre de siècles, il y avait, donc ils en tirent un argument pour dire que, pourquoi pas.
Oui, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Alors effectivement, je milite dans le groupe qui s'appelle Corp Collectif pour le respect de la personne, et notre but, c'est d'essayer d'arriver à une abolition internationale, puisque étant donné que la GPA sont des pratiques de capitalisme du corps transnational, ça n'aurait pas de sens d'essayer d'encadrer cette pratique uniquement en France, où elle est interdite d'ailleurs en ce moment, mais il faut y arriver à travers tous les pays du monde. Bon, c'est certainement, on en est conscient, un long cheminement. Mais effectivement, faut pas s'étonner que mes collègues anthropologues soient rentrés dans le débat, parce qu'après tout, la parenté, c'est ça qui fait un anthropologue, en France en tout cas, et même avant, depuis Lévi-Strauss. Et alors, la parenté, avant, c'était un exercice extrêmement ennuyeux qui consistait à aller récolter des généalogies, des terminologies de parenté, des règles de mariage. Et là, au nom de ce savoir, les anthropologues nous expliquent qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Ça se passe comme ça, de la même façon dans les autres sociétés. Alors, il y a toujours les trois mêmes exemples qui sont l'exemple de la femme stérile chez les Nuer, la femme stérile qui se transforme en homme. Il y a l'autre exemple qui est celui de Suzanne Lallemand chez les Mossi de Volta, qui vous explique que les enfants circulent et que c'est pas la mère qui les a engendrés qui les élève, etc. Et c'est au nom de ce savoir que déjà Françoise Héritier avait exposé de façon extrêmement claire et intéressante dans un article de 1985, vous voyez, dans la revue L'Homme, et qu'elle avait intitulé avec beaucoup d'humour « La cuisse de Jupiter », où elle disait « Certes », et d'ailleurs, j'ai relu l'article il y a peu, où elle dit « Ce sont quelques exemples assez extraordinaires, très rares, obsolètes en tout cas, qu'elle met en avant, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'est la GPA, puisque ce sont des, si ce sont des façons de faire, effectivement, elles sont soutenues par la loi du groupe, elles sont inscrites dans les représentations et la symbolique du groupe, et ça n'a rien à voir avec ce qu'est la GPA, qui est à nos yeux, aux yeux du corps, une pratique de marchandisation abominable des corps humains pour le désir de couples riches occidentaux qui vont se faire des GPA dans des conditions que vous connaissez comme moi et que tout le monde connaît. Donc les anthropologues ont trouvé là effectivement une voie nouvelle d'étude, parce que c'est tout à fait passionnant de voir tous ces débats qui ont été, ils ont soutenu beaucoup et ils sont soutenus par les mouvements militants. J'en prends pour exemple un grand colloque dit scientifique qui avait été organisé au Muséum d'Histoire Naturelle où il y avait les représentants Monsieur et Madame Menson, les parents, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de à ce colloque-là de présentations scientifiques, effectivement, notamment sur les horreurs qui se passent en Inde, mais c'était un mouvement, et ce qui fait qu'on entend parler, qu'on entend, contrairement à ce que vous disiez, Rosaine, en tout cas concernant la PMA, en tout cas pour la GPA, on n'entend qu'un seul avis qui est celui de « c'est merveilleux, l'amour, on fait des enfants, et les enfants sont très normaux après », ce qui est normal d'ailleurs. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez, Rosaine Le Cabolec, de la possibilité, existe-t-elle, d'une GPA éthique ? Qui est souvent avancé maintenant qu'il y a eu cette attaque sur la commercialisation du corps par les défenseurs coûte que coûte de la GPA. Donc la GPA, juste un mot, parce que finalement on emploie le mot.
Oui,
hein.
Oui, mais c'est mieux
de le redéfinir. Donc c'est pas une mère porteuse, hein, c'est une femme porteuse. Elle n'est pas, justement, dans l'histoire, elle n'est pas mère. C'est une femme qui a porté.
La loi française dit.
Alors, justement, on va venir sur qui est la mère, bien entendu. Oui. Quand elle se présente comme au début, comme toute femme d'ailleurs, une femme n'est pas mère avant d'avoir accouché.
Certes.
Donc c'est une femme qui se présente pour porter un embryon.
Sauf qu'elles sont mères en général déjà.
Déjà, oui. Je suis pas sûr parce que je connais pas. Vous savez, le problème, je fais une parenthèse, dans toute cette histoire depuis 25 ans que ça existe légalement dans certains pays, on n'a aucun travail sérieux sur les personnes les plus vulnérables de tout ce pataquès, c'est-à-dire les femmes qui vont porter des enfants pour d'autres.
Alors franchement, je vous donnerai une bibliographie avec joie, et ne serait-ce que regarder ce que ça fait cette américaine, ce Jennifer Lal, qui a travaillé sur les contrats de mères de femmes porteuses. On a déjà un ensemble de données assez important.
Non, sur les contrats, c'est très clair.
Oui, mais sur les mères en Inde, il y a pas beaucoup, mais il y a maintenant des recherches.
Je vous rejoins tout à fait, et les contrats, c'est très intéressant de lire, parce que là, les choses dressent sur la tête quand on lit les contrats. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une étude prospective, sérieuse, scientifique, comme on sait faire, quoi. C'est-à-dire qu'on part de 100 femmes qui veulent porter, qu'est-ce qu'elles deviennent? Ça, on n'a pas. On a que, c'est toujours, et d'ailleurs, l'étude anglaise d'Oxford il y a 3 ans montre, après 25 ans, ils ont retrouvé 111 femmes porteuses qui veulent bien parler, parce qu'il y a le biais, bien sûr, de qui parle, qui ne parle pas. Et je dis ce chiffre à bon escient, c'est que 35% des femmes ont donné non seulement le portage, mais leurs ovocytes. Comme quoi, justement, dans la GPA, on trouve beaucoup de choses. En particulier, c'est pas uniquement de porter un embryon d'un couple d'intention, mais c'est parfois de donner son ovocyte. Et puis, dans cette histoire éthique, j'en termine avec l'Angleterre, en fait, elles reconnaissent très bien d'être rémunérées, même en Angleterre, où c'est théoriquement, mais c'est dédommagé et rémunéré. Sauf que, quand on leur pose la question, puisqu'il y en a 111 qui ont répondu, ça va du simple au double. Ça va de 10 000 à 20 000 pour les femmes, livres, et ça va pour 4 fois plus pour tous les intermédiaires. Une GPA éthique, est-ce que ça vous semble...
Ouais, peut-être simplement pour revenir sur le fait qu'on n'entend que des pros GPA dans les médias ces temps-ci, et que des familles dans lesquelles ça se passe merveilleusement bien. Alors il s'avère que dans l'actualité, on a entendu parler pas mal des époux Menson, dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis qu'il y a la sortie de ce livre de Marc-Olivier Fogel qui raconte justement son parcours de PMA. Après, j'ai pas l'impression que ce soit le seul son de cloche. Au contraire, on entend beaucoup parler de la marchandisation du corps humain depuis des mois maintenant. Ensuite, j'aimerais quand même faire une distinction vraiment entre la PMA et la GPA, puisque c'est la thématique de votre émission, sur la différence entre les deux, parce qu'on passe trop souvent, on glisse trop souvent d'un terrain à l'autre, alors que ce sont deux choses totalement différentes.
Vous avez raison.
Voilà,
c'est notamment... C'est le but de l'émission, hein, c'est bien de dire quelle est la différence.
Et c'est notamment l'argument des anti-PMA aujourd'hui qui disent, oh là là, attention, si la PMA est légalisée aujourd'hui, ça ouvre la porte à la GPA qui serait légalisée demain.
Oui, que répondez-vous à deux questions.
Ce qui n'est pas le cas.
Est-ce qu'il y a une GPA éthique? Est-ce qu'il y a une glissade automatique?
Ce sont tout d'abord deux revendications totalement différentes, puisque pour la PMA, on parle d'une revendication d'égalité devant la loi, puisque la PMA est aujourd'hui... ouverte aux couples hétérosexuels qui ont des problèmes de fertilité, alors que la GPA est aujourd'hui interdite à toutes et à tous en France, donc aux couples hétérosexuels comme aux couples homosexuels. Donc la revendication n'est pas du tout la même de ce point de vue-là. Et quand on parle d'un glissement facile de la PMA à la GPA, effectivement c'est totalement faux. Le débat aujourd'hui est uniquement et vraiment totalement uniquement sur la PMA. C'est la seule question qui doit être abordée, en tout cas entre la PMA et la GPA, dans la révision des lois de bioéthique à la rentrée 2019. Pour l'instant, la GPA n'est pas du tout d'actualité. Peut-être que la question se posera, effectivement, peut-être qu'il y aura une revendication des couples infertiles et des couples d'hommes pour avoir recours à la GPA un jour. Mais
oui, parce que votre argument d'égalité, ils le reprennent, en disant si les femmes homosexuelles peuvent avoir, pourquoi est-ce que nous, on peut pas, si on veut l'égalité.
Oui, mais là, c'est un argument qui concerne, pour le coup, aussi les couples hétérosexuels, qui n'ont pas droit à la GPA aujourd'hui en France. Donc ce sont vraiment deux choses différentes. Et pour répondre à votre question sur la GPA éthique, je pense, du coup, à contrario de vous deux et de Martine Segalin, qu'elle peut exister sous certaines conditions extrêmement strictes, alors qu'on ne retrouve pas partout, je suis d'accord. Il peut y avoir une exploitation du corps des femmes dans le cadre de la GPA, mais je pense qu'on peut établir des conditions totalement strictes, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y avait 35%, je crois, des femmes porteuses qui avaient également donné leurs ovocytes. Une condition toute simple pourrait être justement de faire en sorte que les femmes qui portent l'enfant n'utilisent pas leurs propres ovocytes pour la gestation. Concernant la marchandisation du corps humain, il y a des endroits comme en Californie où la mère, la femme porteuse, doit avoir un certain revenu, un certain niveau de revenu pour pouvoir justement prétendre à la gestation pour autrui. Et donc sur l'argument qui dit que on exploite totalement la misère humaine pour donner la vie aux enfants de couples d'homosexuels riches, ça peut être le cas dans certains pays. En Inde, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup moins de règles et de normes de ce point de vue-là.
Maintenant, l'Inde a interdit la fécondation. C'est pratique pour les couples homosexuels. Comme ça, ils se rabattent sur le Laos. Et maintenant,
Népal.
Le Népal, oui, est assez connu. Quand il y a eu le tremblement de terre du Népal, il y a eu une série d'homosexuels qui sont allés chercher leur bébé en laissant les gens dans les ruines de leur toit.
Mais je pense qu'il y a d'autres endroits où pour le coup des règles strictes peuvent être établies, donc sur le niveau de vie minimum par exemple de la mère qui va porter l'enfant, on parle de rémunération de la femme porteuse. Moi, j'aimerais plutôt parler d'indemnisation. En tout cas, c'est en ces termes-là que j'aimerais imaginer les choses. C'est-à-dire que...
Je trouve que voilà, c'est pas une très grande progression du point de vue du féminisme, tout de même, d'utiliser le corps des femmes pour cela. Est-ce que, c'est quand même aux praticiens que je m'adresse, est-ce qu'une grossesse, c'est rien du tout? Est-ce que c'est juste se faire implanter un embryon qu'on va laisser grossir? Est-ce qu'un embryon peut se développer si la personne qu'il porte, on lui explique qu'elle n'est qu'un four? Et... n'y a-t-il pas, et ça ce sont des collègues à vous gynécologues qui nous parlent des échanges épigénétiques et donc de cette importance de ces 9 mois qui sont passés dans le ventre de la mère qui est la mère, enfin, de mon point de vue. Et quant au contrat éthique, par exemple, il y en a en Angleterre, effectivement, il y a très très peu de GPA qui sont faits par des Anglais qui vont en Californie s'ils ont de l'argent, ou au Laos s'ils en ont beaucoup moins. Donc, à partir du moment où on met son... Lisez ces contrats de Jennifer Lal, L-A-H-L. C'est sur le site de cette journée qu'on a eue. Vous allez voir ce que c'est qu'un contrat qui va jusqu'à interdire la teinture des cheveux, contrôler ce que mange la femme, le nombre de fois où elle va avoir des relations sexuelles avec son propre mari, et pas d'autres, sûrement pas. Si jamais elle veut garder l'enfant, elle n'a pas le droit, si jamais il y a un avortement, ça sera à ses frais, etc. Enfin, c'est monstrueux, et ce n'est... De toute façon, d'après le droit français, on n'a pas le droit de contractualiser ni la femme ni l'enfant. Et puis aussi, on parle dans la GPA de la marchandisation du corps. Demandons-nous ce que ça fait à l'enfant, parce que c'est quand même ça qui est au bout du compte. Qu'est-ce que cet enfant aussi, on va lui dire à un moment, comment lui expliquer sa naissance, savoir quel est un autre morceau de famille qui est là quelque part. Enfin, on est devant un ensemble là de difficultés qui sont très très grandes et là-dessus, il n'y a pas de possibilité de contrat éthique. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans un article paru dans une revue scientifique qui s'appelle « Travail, genre et société, pourquoi la GPA ne peut pas être éthique ?» Et je pense que le gouvernement, pour l'instant, fait bien de ne pas en parler. Mais regardons ce que j'avais vu passer dans la presse, par exemple, dans le cadre des projets de loi sur la PMA, tout ce qui concernait alors ce problème que nous posent les gens qui ont fait des GPA, c'est que leur enfant n'est pas inscrit à l'état civil français et toutes les difficultés qui s'en suivent. Et j'avais remarqué que dans un projet de loi, je ne sais pas si c'est resté, il y avait un petit alinéa sur cette affaire-là. Donc il est évident que ça n'a rien à voir, mais que c'est quand même lié et que on en débat constamment, si vous voulez, de ces deux affaires qui sont à la fois très différentes, mais qui ont quand même des similitudes.
Mais moi, je trouve que par rapport à l'enfant, il y a des enfants qui arrivent dans des conditions redoutables, je pense à l'inceste en particulier. Mmh. Ils ne doivent pas être pénalisés. Ils sont là, et il faut les accueillir. Le trouble de la demande d'inscription sur l'état civil, en fait, c'est un faux problème. Parce que ces enfants, ils ont tout à fait une existence, ils sont reconnus, ils n'ont aucune gêne.
Oui.
Simplement, ce qui n'est pas inscrit sur l'état civil, c'est les parents d'intention. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait par les couples homosexuels. Mmh. C'est-à-dire que l'état civil français ne dit pas simplement « la mère, c'est celle qui a voulu ». Elle dit que la mère, c'est celle qui a accouché. Donc, est-ce que le couple, d'ailleurs en question, est prêt à admettre que l'homme, il a reconnu l'enfant, et est-ce que la femme qui a accouché est bien la mère? Je pense que oui, la femme qui accouche est la mère. C'est en tant qu'obstétricien que je parle, bien entendu, pour en avoir vu plusieurs milliers et assisté. Par contre, après, on revient un petit peu à la situation du couple homosexuel aussi, rien n'empêche qu'il y ait un changement de statut avec une adoption qui peut être possible. Mais clairement, l'enfant, il a besoin, de même qu'il a peut-être plus besoin qu'auparavant à remonter à l'anonymat, au non-anonymat du donneur ou de la donneuse, il a besoin de savoir comment il est né. Et donc, il y a une femme, effectivement, qui est peut-être à Pétahouchnok ou je ne sais où, mais qui a porté cet enfant. Elle a été rayée parce que la plupart du temps, les couples commanditaires ne veulent plus en entendre parler, sauf quelques-uns qui en font campagne de promotion, et des centres qui en font campagne de promotion. Mais la plupart du temps, on les retrouve pas, d'où le texte que je citais tout à l'heure, 111 femmes sur des milliers qui se manifestent parce qu'elles n'osent pas se manifester. C'est beaucoup plus complexe que ça, elles ont été mises de côté. Et moi, je dis que la commercialisation, c'est une vraie commercialisation, non pas uniquement de la femme, mais de tous les entourages, de toute la mafia qui est autour, qui est quand même, qui fait 4 fois plus en termes de finances, mais c'est aussi que celle qui porte le plus souvent, si elle n'est pas mue, et je veux bien croire qu'il y a des femmes qui ne sont pas mues uniquement par le gain d'argent, mais si elles sont mues par un côté émotionnel et altruiste, c'est pas pour que ça s'arrête brutalement le jour de la naissance avec la séparation de l'enfant, c'est pour qu'elle soit intégrée dans une relation, ce qui n'est pas en retour, parce que la plupart veulent rester entre soi et veulent surtout qu'on remontre pas leur infertilité pour les couples hétéros et pour les couples homo. Voilà, on parle d'un livre avec un journaliste célèbre. On ne parle pas des mères, des femmes qui sont devenues mères et qui ont porté ces enfants. Où sont-elles, que deviennent-elles et qui sont-elles? C'est un des problèmes. C'est un débat en tous les cas qui mérite d'être encore une fois poursuivi. Je suis obligé, faute de temps, d'interrompre, mais je tiens vraiment à vous remercier, Rosane Le Carboulec, donc responsable du journal Têtu, et Martine Ségalène, qui avait publié tout dernièrement, d'ailleurs sur le thème que nous venons d'aborder dans la découverte, le pourquoi la GPA éthique ne peut pas exister. Et je vous donne rendez-vous donc dès demain pour la poursuite de ces investigations. Cette émission, en partenariat avec le quotidien du médecin, a été réalisée par Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau, Nino Lima, Alain Joubert. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet franceculture.fr, les réécouter autant que vous le souhaitez ou vous inscrire pour le podcast pour une écoute à la carte. À demain.